en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir et ravi de vous retrouver après les vacances de VMDN. Toute l'équipe est désormais à pied d'œuvre pour continuer de partager avec vous nos coups de cœur culturels. Et désormais, pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, vous pourrez gagner quelques-uns des livres ou des albums qui font l'actualité culturelle. Il vous suffira d'aller sur la page Facebook de Vous m'en direz des nouvelles et d'être parmi les premiers à répondre à une question que je vous poserai au cours de l'émission. Soyez donc bien attentifs et que les meilleurs gagnent.
RFI.
Et pour commencer cette nouvelle saison, un vrai coup de cœur, justement, un récit aux accents autobiographiques que signe notre premier invité, Abdourahmane Waberi. Il enseigne les littératures françaises et francophones aux États-Unis à l'université George Washington. Et son amour des mots, de la lecture et de l'écriture, eh bien, il en parle dans son nouveau roman qui nous emmène dans le Djibouti de son enfance, le Djibouti de la fin des années 70, début des années 80, ces années charnières, puisque ce sont celles qui entourent l'indépendance de ce tout petit pays d'Afrique de l'Est. Un roman d'apprentissage qui s'ouvre comme l'éclosion de papillon, un message adressé à une petite fille qui résonne aussi comme un hommage aux femmes si importantes dans le devenir d'un enfant. Pourquoi tu danses quand tu marches, le nouveau roman d'Abdourahmane Waberi est paru chez Jean-Claude Lattès et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Abdourahmane Waberi.
Bonjour Jean-François Cadet, merci de m'avoir ici.
Avec grand plaisir. Cette question, pourquoi tu danses quand tu marches, avec donc un point d'interrogation, c'est la fille du narrateur qui la lui pose un jour en marchant avec lui dans une rue de Paris. On est sur le chemin d'une école parisienne. C'est vraiment un grand moment de complicité entre le père et la fille. La petite fille s'appelle Béa. Elle est née avec de grandes oreilles, un peu comme Barack Obama. C'est ce que vous écrivez. Le père, lui, s'appelle Aden. Il traîne la patte, il claudique. On comprendra pourquoi en lisant le livre, qui constitue vraiment la réponse à la question que pose le titre, hein, « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» Une question qui va amener le père à replonger dans son enfance à Djibouti, une enfance qui est un peu la vôtre, même si c'est un roman. Est-ce que ce livre, c'est d'abord un livre de souvenirs, Abdourahmane Waberi ?
Oui, Jean-François Cadet, oui, c'est mon livre le plus personnel, en tout cas. J'avais approché Djibouti par le biais de la grande fiction, on va dire, la fiction la plus dure, là. Et cette fois, je viens à une fiction plus légère, au sens du contenu du terrain. Et j'ai gardé la vérité pour les émotions, ou en tout cas, je suis tout près de la vérité des émotions, tout en ayant un peu réarrangé le parcours de mon histoire. Donc, ce que je voulais, c'est à la fois parler de moi, maintenant que j'ai dépassé la cinquantaine, que je suis un...
Ça se voit pas.
Dans la culture somalie, j'ai fait partie des vieux maintenant et des sages. Et donc, je peux parler de choses que je n'osais pas ou que je n'approchais pas auparavant.
Oui, un livre personnel, effectivement. Il y a une photo, d'ailleurs, sur le bandeau qui entoure le livre. C'est vous, avec Béa?
C'est cela. C'est l'idée de l'éditrice, le choix de la photo. Et donc, en fait, je me suis pris à mon propre. Vous voyez, dans la fiction, on est dans des mises en miroir, n'est-ce pas? Et donc, ultime mise en miroir, l'éditrice a gardé la vraie photo avec avec ma vraie fille. Mais en tout cas, c'était un prétexte aussi pour revenir au Djibouti des années 70 et 80, ce qu'on appelait les TFAI. Et donc, c'est assez intéressant que, évidemment, en France métropolitaine, peu de gens s'en souviennent. Mais de l'autre côté, Djibouti, c'est pareil, hein, parce que beaucoup de Djiboutiens ont moins de 30 ans, n'est-ce pas? Et les TFAI, ça paraît déjà un peu de l'histoire ancienne. Et moi, il me plaisait de revenir un peu dans ces années-là, qui sont les années de mon enfance.
Oui, vous en avez parlé de Djibouti de ces années-là à votre fille?
Non, c'est en fait...
C'est par
mon histoire, oui. Parce que autant que je re-regarde mes livres, je vais essayer de remonter. Dans Transit, j'en parle un peu, mais les autres parlaient du Djibouti les plus récents, on va dire.
Alors, ce qui est frappant dans ce récit-là, Abdourahmane Waberi, c'est la place des femmes. Alors, il y a la petite fille, je le disais, il y a la mère, il y a la grand-mère, il y a la tante, il y a l'institutrice, il y a la prof de français au collège et au lycée, il y a la bonne de la famille... On a l'impression que ce sont les femmes qui finalement structurent l'existence du personnage.
C'est assez vrai, ça. C'est aussi la vérité des émotions, comme je disais. Donc c'est la vérité de la petite histoire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'étais différent. Hein. J'ai très vite trouvé des copines, par exemple de lecture dans mon quartier, où lire était un peu féminin, un peu sale, n'est-ce pas, un peu bizarre. Moi j'allais, mais ce sont les filles qui me réfourguaient en BD, en histoire, en bande dessinée.
Oui, ça c'est dans le roman. Mais lire c'était un peu sale, c'est fort ce que vous venez de dire.
Ben, c'est un peu féminin.
C'était suspect pour un garçon.
Jusqu'à présent. Hein. hein, ça l'est, hein, ça l'est dans les mêmes dans notre belle France, dans les cités, comme on dit, c'est un peu féminin, hein, lire. C'est pas pour les,
pas pour les vrais hommes.
J'étais différent, donc j'ai caché pas ma vulnérabilité, donc j'allais chercher aussi mon côté féminin, mon continent féminin, et donc la lecture, lui. Manifestement, en tout cas chez moi, elle faisait partie du côté féminin.
Oui, d'ailleurs, sa mère à Aden, donc Aden c'est le narrateur, c'est votre personnage, sa mère lui dit attention, tu lis un petit peu trop, ça risque de t'abîmer les yeux. Voilà, ce qui est assez drôle, il lit énormément, donc il va aussi apprendre à écrire. Et cet amour des livres va lui être transmis, Abdourahmane Ouaberi, par deux enseignantes, deux françaises de France, comme il dit. Ouais. Françaises de France, il y a deux majuscules là. On a un peu l'impression que des françaises de France, par essence, ce sont des gens extraordinaires, des gens qui ont tout compris à la vie.
Non, mais parce que les Djiboutiens ou les Africains disent souvent ça, les Français des France, parce que ils connaissent les Français des colonies aussi, vous voyez, qui sont plus revêches, plus secs, qui connaissent un peu, qui se considèrent comme des Africains, n'est-ce pas, à qui on ne les fait pas, voilà, n'est-ce pas. Alors que les Français des France sont plus gentils en général, plus disponibles, plus empathiques, en tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais. Et il est vrai, en tout cas, dans mon enfance, que les instituteurs, les institutrices ont toujours joué un grand rôle. Vous voyez, je vais vous donner juste un exemple, Jean-François Cadet. Jusqu'à la classe de seconde, jusqu'à la classe de terminale d'ailleurs, je vais dire, j'ai eu un seul prof djiboutien. Et je l'ai rencontré, il s'appelait Monsieur Abdelkader, et je l'ai rencontré en seconde, il faisait l'économie. Donc vous voyez, dans une collège normale, on a 6 profs, n'est-ce pas? Et donc depuis l'école maternelle, je n'ai eu que des professeurs français.
Et donc ce sont des professeurs français qui vous
des coopérants,
ont voilà, donné ce ça. Goût des mots.
C'est ça, ce sont des coopérants, c'était des Français des France, et ils ont aussi cette... pour certains, ils viennent de la tradition de la Troisième République, vous voyez, ces gens qui ont été quand même apportés la langue française sur les bords du Chari ou sur les bords d'Ambouli, sur les bords de l'Ambouli à Djibouti. Et donc c'est ces gens-là qui nous ont fait aimer la France et la langue française, puisqu'on a appris en même temps la langue et la littérature française, alors qu'un petit Français des France métropolitaine a d'abord la langue qui lui est donnée par les parents, et après il va chercher la langue scolaire à l'école. Nous, on a tout dans les mêmes packaging, si j'ose dire.
Alors il y a effectivement la langue scolaire, et puis il y a la tradition plus orale qui effectivement est transmise par la famille, et notamment par la grand-mère. Alors la grand-mère, c'est un personnage assez extraordinaire. La grand-mère, le narrateur l'appelle grand-mère Cochise comme le grand chef des Indiens d'Amérique, hein, le grand chef Apache. Pourquoi d'ailleurs l'appelle-t-il ainsi?
Parce qu'elle est très ridée, elle est très hiératique, très très âgée,
et comme la justice.
Comme je suis le lecteur, enfin, comme le narrateur est lecteur des BD aussi, là, cette culture de Achille Talant et Cochise, c'est les deux pôles, n'est-ce pas? Donc, mais cette grand-mère était une vraie grand-mère aussi que j'ai connue et qui m'a appris plus que mes parents, parce que mes parents étaient déjà des ex-nomades sédentarisés ou des anciens nomades sédentarisés. C'était la deuxième génération des sédentaires, eux, alors qu'elle, elle était encore nomade. Elle avait grandi toute une partie de sa première vie, était nomade, voyez.
Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle porte en elle la tradition et elle raconte des histoires.
C'est elle qui a l'histoire de la culture, c'est elle qui transmet, voyez. Parce que les autres, ils sont à cheval entre l'ancien monde et le nouveau monde, donc souvent ils sont un peu maladroits, ils sont un peu à cheval, ils connaissent pas, ils ont un peu déjà oublié la culture nomadique, et ils sont pas encore totalement urbains. Là, je parle de mes parents, vous voyez. Alors que moi, je suis vraiment la troisième génération, ou la première génération des gens vraiment urbains. Et donc, là, il y a une coupure, d'avec le monde nomadique, et donc, le monde nomadique, la mémoire, Somalie ou Afar, est portée par les grands-parents.
Donc il y a la tradition orale et puis il y a l'écriture, donc la lecture. Alors le Aden, lui, il va dévorer les livres, hein, vous le disiez tout à l'heure, notamment les Évangiles et Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est des livres que vous mettriez dans la même catégorie?
Il y a toujours... Aden a une relation avec le Christ qui est personnelle, donc ce n'est pas vraiment la religion, c'est les personnages, c'est les Galiléens, vous voyez, cet homme un peu presque quasiment nu, hein, une espèce de sadhu indien qui attire les foules et qui soigne, tu vois, ces personnages est très romanesque, très fort. Et comme c'est un garçon souffreteux qui cherche à se sauver par le verbe, vous voyez, donc le Christ, mais ça aurait pu être Bouddha, ça aurait pu être le petit Mohammed, enfin les Mohammed de la grotte aussi, hein, vous voyez, il cherche des hommes, il cherche pas les institutions. Et Exupéry, Saint-Exupéry, c'est presque la même chose. Vous voyez, les petits princes, c'est les questionnements. Hein, c'est pourquoi la brebis n'aime pas, enfin les moutons, dessine-moi un mouton, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu marches et pourquoi
je marche. Pourquoi tu danses quand tu marches? Voilà. On n'est pas très loin, effectivement.
Ce n'est pas très loin, c'est questionnement existentiel.
Alors, ce roman, c'est aussi un hommage à la langue, aux mots, à l'écriture. D'ailleurs, le narrateur, c'est plutôt vers la fin du roman, ça donne à Béa trois conseils d'écriture. Respecter la ponctuation et les règles grammaticales. C'est le premier conseil. Deuxième conseil, alterner les phrases courtes et les phrases longues pour créer du rythme. Et troisième conseil, utiliser ses connaissances et en cas de panne, faire appel à son imagination. C'est ça être écrivain, Abdourahmane Bouvier?
Oui, on pourrait donner ça dans les cours de creative writing ou même les masterclass que vous donnez, même les journalistes. Hein. Donc c'est vraiment...
C'est ce que vous expliquez à vos étudiants à Washington?
Oui, oui, d'abord... J'ai un peu simplifié là, mais il faut d'abord lire. C'est à peu près en trois temps aussi les ateliers. Vous voyez, il faut d'abord nourrir. Après, il faut une consigne pour un retour et un troisième temps où on partage avec la classe ou avec le groupe. Mais ce sont des questions que je donne à mes grands enfants.
Mais alors, c'est étonnant parce que l'imagination.
Je suis enseignant moi.
Mais justement, parlons un peu d'imagination justement parce que là, quand on vous lit, faire appel à son imagination en cas de panne, on a l'impression que l'imagination c'est une roue de secours.
Disons que c'est pas l'imagination tant en fabulation, c'est-à-dire l'expérience. Trouver des moments où vous avez des événements qui vous ont marqué ou des choses comme ça, c'est ça l'imagination ici. C'est l'imagination sensible, l'expérience sensible, je devrais dire. Mais bon, comme j'ai parlé à un enfant, je peux pas dire des mots trop techniques, voyez.
Nous sommes page 178 de votre livre et le narrateur Aden s'adresse à la petite fille Béa.
C'est important les mots, aussi important que l'eau, la nourriture ou l'air que tu respires, Béa. Notre vie en dépend. Aujourd'hui encore, les mots sont des jouets merveilleux. Les noms de certaines personnes, de certaines plantes, de certains lieux ou certains animaux nous font voyager. Certains mots te mettent en fureur, d'autres en joie. Tu adores le mot ceviche depuis que tu as goûté cette recette péruvienne. Le poisson cru, le jus de citron et les épices ne semblent pas agresser ton palais d'adolescente. Bien sûr que je ne connaissais pas le ceviche à ton âge. D'autres mots mettaient en alerte mes papilles. J'avais l'impression de quitter mon petit corps pour rejoindre la caverne d'Ali Baba. Cowboy, footballeur, marin, pilote ou dessinateur, mes rêves n'étaient pas si fous que ça. Ils n'étaient pas vains non plus. Au contraire, ils donnaient un sens à ma vie. Un temps, j'imaginais que je serais un esprit scientifique infaillible qui ne s'appuierait que sur des mots sans mensonge, sur des calculs ou graphiques qui ont fait leurs preuves. Je serais entomologiste, me lançais-je comme un défi. Ce mot m'a séduit tout de suite. C'est comme ça qu'on appelle celui qui ramasse les noms et les photos des insectes. Dans son grand cahier, l'entomologiste marque sous chaque photo le nom de l'insecte. S'il est riche, il peut recevoir par la poste des insectes envoyés des quatre coins du monde. Alors il peut construire un casier et placer le bijou au milieu. Le bijou, pour l'entomologiste, c'est l'insecte dans son écrin. Il nous faut prendre soin des mots comme l'entomologiste prend soin de ces insectes épinglés collés dans un grand cahier appelé herbier. Dans mon quartier, il n'y avait ni herbier, ni cadre bien ordonné. Dans mon cercle familial non plus. Ma mère voulait un bel enfant, vigoureux et sain, peu importe le sexe. Papa Latige voulait un garçon formidable pour ouvrir le bal de la lignée. Je n'ai assouvi ni le désir de l'un, ni le vœu de l'autre. J'étais une énigme, pas l'aîné bien portant, voué à un avenir prometteur dont il rêvait tant.
Et c'est vrai, Abdourahmane Ouaberi, que le petit Aden est un garçon chétif, maladif, fiévreux, peureux, esselé, en proie aux quolibets, aux humiliations dans la cour de récréation. On le surnomme l'avorton. Le gringalet, c'est une sorte de souffre-douleur idéal, en fait, pour ses camarades.
Oui, ben là encore, il y a des souvenirs personnels, hein, parce que les enfants sont très cruels. Et comme j'étais un garçon peureux, un peu chétif, oui, j'ai un peu été... la risée, des colibés et d'autres gestes déplacés, hein, des fois une petite gifle, tu vois, comme ça. Ouais. Les petits derniers, on passe dans le rang et puis hop, les petits derniers, on le met une gifle sur le haut du crâne, sur la nuque.
Il y a eu un Johnny ou il y avait plusieurs Johnny?
Et d'ailleurs, il y a un vrai Johnny qui était dans mon enfance, une terreur, mais je le connais d'ailleurs. C'était un garçon du quartier qui était un peu plus âgé, un peu plus fort que moi. Mais j'ai évidemment dans le livre un peu rendu encore plus méchant et plus fort qu'il ne l'était.
Voilà, parce que c'est lui qui va modifier radicalement le destin du personnage.
Voilà, mais il fallait un méchant, donc le pauvre, il ramasse aussi la limaille de la méchanceté vers lui. Mais oui, j'ai connu des jaunis, oui.
Alors, 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 qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore.
Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La, la.
Alors on danse Stromae dans VMDN sur RFI, et Stromae et cette chanson, Abdourahmane Ouaberi, eh bien on les croise dans votre roman, on va pas dire précisément pour quelle raison, mais vous l'avez vraiment rencontré Stromae ?
Oui, au Brésil, il était très gentil.
Ah, il est très gentil, dans quelles circonstances justement ?
Ben, on était invités tous les deux, j'allais dire, et Alain aussi m'a beaucoup un ami. Parce qu'il y avait
grand écrivain,
grand,
si l'on est.
Voilà, que vous avez invité, M. Cadet.
Absolument.
Et... donc Alain, Mabankou, Stromae, Agualusa et d'autres, nous étions invités à un festival de littérature, de musique, pardon, où il y avait un petit volet littéraire et on a passé quelques jours à Rio ensemble.
Qu'est-ce qui vous touche dans ces chansons et dans l'homme Stromae?
Bah d'abord, c'est un talent fou, hein. Racine Carrée, c'est peut-être un des meilleurs disques, je sais pas, du siècle, j'allais dire, de cette partie du siècle. Et l'homme est un homme très talentueux, très sérieux, très méticulé, tout est calculé. Puis hors scène, si j'ose dire, c'est un garçon très charmant, très généreux, très gentil. Et je pense probablement, mais mélancolique, que je ne le connais pas assez, mais il a ces niveaux de talent qui ne peut être que déboucher sur une forme de mélancolie aussi en même temps.
Alors on l'a dit, hein, votre livre s'intitule « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» La chanson, on l'a entendu, s'appelle « Alors on danse ». Comment est-ce que Stromae a trouvé sa place dans ce roman ? Est-ce qu'il a été un déclencheur de l'envie d'écrire ? Est-ce qu'il vous a rattrapé en cours d'écriture ?
Le morceau plus exactement joue un rôle de clé de voûte dans la dernière partie du roman. Et ça permet de dégager toute la tension de la souffrance, puisque les personnages étaient souffreteux à la fin, au début, et à la fin, il fait des pogos, comme on dit, sur la scène. Et donc, le vecteur, évidemment, et la clé de voûte pour la dernière partie, bah, c'est ces morceaux. Mais la rencontre avec Stromae est aussi réelle et sans doute joué quelque chose, parce que je ne pensais pas, quand j'étais, les quelques heures que j'ai passées avec lui à Rio, je ne pensais pas au roman, évidemment, et ça, c'était en 2015, je crois.
Donc bien avant de commencer, oui, c'est l'écriture.
Ça. C'est ça, vous voyez, on ne sait pas, l'écriture est un jeu d'une espèce de mise en fiction et un jeu de miroir. Donc je ne sais pas à quel moment j'ai réouvert une fenêtre et bing, je suis tombé sur Stromae qui m'a rattrapé, quoi, ou plutôt qui m'a aidé.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Abdourahmane Ouaberi, dont le nouveau roman « Pourquoi tu danses quand tu marches » vient de sortir chez Jean-Claude Lattès, un roman que vous allez pouvoir gagner en répondant par message privé, hein, c'est important, par message privé, à partir de la page Facebook de l'émission, à la question suivante. Voilà, le moment est arrivé, donc la question est la suivante, on a donné la réponse hein, tout à l'heure dans l'émission. Quel est le surnom que le narrateur du livre a donné à sa grand-mère? Le surnom que le narrateur du livre a donné à sa grand-mère, donc à vos claviers, parmi les 5 gagnants, qui j'espère seront plus nombreux que 5, d'entre vous recevront le livre par voie postale. Rendez-vous donc sur la page Facebook de VMDN pour jouer et pour gagner. Abdourahmane Ouaberi, quand on évoque le Djibouti de votre enfance, Djibouti dans lequel vous placez cette histoire, celui de la fin des années 70, début des années 80, quelle est l'image tout de suite qui vous vient à l'esprit ?
C'est l'image de l'enfance et c'est aussi le rêve que tout est possible. Vous voyez, on a dans les pays du Sud en général cette ivresse que certains individus ou que beaucoup d'individus soient ou sont beaucoup plus âgés que leur pays. Vous voyez, moi-même, qui suis pas très vieux comme je le disais, je suis de 12 ans plus âgé que mon pays. Donc ça, c'est quelque chose de fulgurant et ça donne. Ça donne aux artistes de ces pays-là aussi une forme, à la fois une responsabilité, parfois un poids, mais aussi une espèce de frénésie aussi de création, de commentaires. Donc, je discute avec mon pays, on s'engueule parfois, et ça fait partie de la maison. Donc, on a cette chance qu'on vient d'un pays jeune, on va dire, pas petit, mais un pays jeune au sens d'état-nation. On a le temps de discuter avec lui.
Alors, on peut pas dire que ce roman-ci soit un roman politique, mais on sent quand même, hein, au détour d'une phrase, quelques petits éléments qui en disent long sur l'atmosphère de l'époque. Il y a beaucoup d'allusions, rien de très très précis quand même, mais vous voulez en savoir un peu plus. On avait envie d'évoquer Djibouti avec vous dans cette émission et aussi avec l'historien qui nous a rejoint. Bonjour Simon Habervière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur affilié à l'IMAF, l'Institut des Mondes Africains à Aix-en-Provence. Alors c'est vrai que quand on évoque Djibouti aujourd'hui, on pense à deux choses. On pense à l'affaire Borel, qu'on a déjà beaucoup évoqué dans cette émission. Et puis aussi on pense à l'armée, aux militaires, aux soldats français toujours stationnés là-bas. C'est un endroit stratégique réellement, Djibouti, encore aujourd'hui?
Alors encore aujourd'hui, je saurais pas le dire. Si on voit le nombre de militaires installés à Djibouti, je pense que là on peut répondre que oui. En tout cas, ce sont des régions stratégiques qui ont amené l'installation française à Djibouti et sans doute le maintien après la masse des indépendances africaines.
Donc on est dans la corne de l'Afrique, on est au débouché de la mer Rouge, on est juste en face du Yémen.
Et on est à mi-chemin entre Marseille et la Réunion.
Mmh, c'est ça. Donc à mi-chemin entre l'ancien empire
d'éventuels possibles, voilà, de la France, etc. C'est-à-dire qu'on est à un endroit central pour aller faire des connexions. Dans les années 70 encore, un avion, pour aller à La Réunion, doit s'arrêter à Djibouti. Il peut pas faire le trajet tout seul. De la même façon que dans les années 1880, un navire de guerre doit s'arrêter à Djibouti parce que c'est la moitié du chemin.
Et on peut dire que toute l'histoire récente de Djibouti est marquée par ce positionnement stratégique?
En tout cas, c'est l'histoire, le fait que les Français y soient restés et qu'aujourd'hui un certain nombre de puissances mondiales, que ce soit la Chine, les États-Unis, etc., viennent à Djibouti, on peut penser qu'effectivement, il y a un ensemble de conjonctions qui font ça. Donc la position stratégique, le fait qu'il existe déjà des installations portuaires extrêmement importantes, même si elles ont encore été bien agrandies depuis, mais le fait qu'il y avait déjà un port militaire à Djibouti, etc., il est bien placé et la présence française pour des raisons diverses, entre autres avec la création du chemin de fer entre avec l'Éthiopie, la présence de l'Éthiopie qui a permis de donner une petite structure commerciale, enfin une petite légitimité commerciale au port, ont fait qu'il s'est développé quelque chose et après c'est des boules de neige, hein. C'est-à-dire qu'une fois que ça commence à marcher, ça marche.
Alors le petit Aden Abdourahmane Ouaberi, donc votre narrateur, votre personnage principal qui vous ressemble quand même beaucoup, c'est ce qu'on a compris, il voit les militaires, il voit le balai des camions des légionnaires français, il demande un jour à sa tante: pourquoi ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils sont chez nous, ces militaires français? Et elle lui répond: parce qu'ils sont nos colonisateurs, parce qu'ils sont plus forts que nous.
Elle lui répond parce que nous sommes. Et il comprend pas les mots colonisateurs, donc elle redit dans une deuxième séquence: parce qu'ils sont plus forts que nous. Ben oui, c'est un peu ça la réalité ramassée. Mais ceci dit, ce que je voulais dire, ce n'est pas en contradiction avec ce qui a été dit précédemment. Parce que dans les Djibouti des années 70-80, les militaires français sont dans le paysage, ils font partie du paysage. J'ai appris, vous allez voir, monsieur Cadet, que j'ai appris l'antimilitarisme à Caen, en Normandie, quand j'étais étudiant.
Ah bon?
Ben oui, Djibouti, les Français de France, puisqu'il y a les Français, on va dire, autochtones, qui sont là depuis plusieurs siècles, pour certains même, enfin presque un siècle. Puis il y a les Français de France. Puis la troisième catégorie, c'est les militaires. Mais ils sont aussi présents que les cailloux de Djibouti, vous voyez. On connaissait leurs étiquettes, leurs fanions, les uns viennent de Vannes, les autres de Calvi. On savait tout ça, mais on n'avait pas une animosité, vous voyez. Après, quand je suis devenu étudiant en France, j'ai découvert l'antimilitarisme, la culture du bidas qu'on insultait. Mais avant, à Djibouti, ça faisait partie du corps, quoi.
Oui. Mais alors, je voudrais revenir sur cette phrase, justement. Ils sont plus forts que nous, hein, que la tante dit, effectivement, aux petits garçons. C'est assez étonnant parce qu'on est vraiment à la fin du chapitre, et juste après, le chapitre se termine, on tourne la page, quoi. Pourquoi l'avez-vous mis précisément à la fin d'un chapitre? Parce qu'on parle toujours des fins de chapitre comme des cliffhangers, des façons de retenir, de retenir l'attention, de relancer un petit peu le rythme aussi du livre. Là, on se dit finalement, bah, tout est dit, quoi.
Oui, mais vous savez, je suis aussi, c'est les mêmes années, d'enfance, j'allais dire, c'est les années aussi pour la lutte pour l'indépendance, vous voyez. Donc moi, enfant, j'entendais, j'avais des cousins qui étaient en prison, d'autres qu'on disait expatriés ou en tout cas expédiés. Donc ce sont des années où l'enfant entend ça, mais c'est pas sa préoccupation principale. Ça deviendra beaucoup plus tard. Là, il est avec ses souffrances personnelles, sa jambe, etc. Là, vraiment, c'est comme une image, c'est comme, vous voyez, il voit ses légionnaires passer, tiens, et comme il est allé sur la route, en fait, il y a une stratégie d'ailleurs. Au départ, il pose ses questions parce que sa tante avance plus vite que lui.
Voilà.
Donc, il veut reprendre son souffle, il veut qu'elle marche, donc il faut qu'il invente.
Il faut qu'il trouve quelque chose.
Voilà, voilà. Mais c'est pas vraiment une préoccupation politique, c'est plutôt, il veut rattraper sa tante qui marchait plus vite que lui.
Alors, vous avez lu le livre, Simon Humbert-Vierre. Encore une fois, c'est pas un roman politique, mais c'est vrai qu'on découvre comme ça au détour d'une phrase quelques petits éléments de la société djiboutienne de l'époque. Par exemple, on a l'impression, je sais pas si c'est mon impression à moi, si c'est une réalité historique ou pas, on a l'impression à l'époque, donc on est vraiment à la fin des années 70, hein, début des années 80, mais fin des années 70 surtout, d'une société, en fait, à trois vitesses. Il y a les blancs, les arabes, les noirs. C'est aussi simple que ça ?
Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est une société extrêmement clivée, avec des très très grandes variations sociales. Enfin, avec c'est encore le cas aujourd'hui à Djibouti. Les écarts sociaux sont extrêmement importants, d'une misère aujourd'hui encore très forte, à des gens qui ont des niveaux de richesse quand même assez importants, largement sur des standards occidentaux. Je voudrais revenir juste sur, si vous me permettez, sur la question des militaires, parce que il y a un élément qui n'apparaît pas dans le livre, mais qui est à mon avis quand même structurant dans le Djibouti des années 60-70 dont parle l'ouvrage, qui est la question du barrage. C'est-à-dire que pendant une quinzaine d'années, la ville de Djibouti a été entourée par un barrage militaire, gardé par des militaires, et les entrées à Djibouti étaient extrêmement contrôlées. Et donc, pour passer, on devait montrer systématiquement ses papiers à des militaires ou à des gendarmes qui contrôlaient ça. Voilà. Et donc, ce barrage-là explique la présence massive des militaires dans les rues, parce que les militaires à l'intérieur de la zone du barrage passent leur temps à aller vérifier que tous les gens qui sont à l'intérieur, parce que bien évidemment, la population de la ville de Djibouti triple pendant l'installation du barrage. Et donc, les militaires passent leur temps à aller vérifier que tous les gens à l'intérieur sont bien légitimes à être à l'intérieur. Et donc, ça, on a vraiment une construction, on a ce que j'ai appelé la construction de la djiboutienneté à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des djiboutiens comme ça, mais ce sont les militaires, quelque part, qui ont joué un rôle important.
Abdourahmane Mobéré, vous avez le souvenir précis de ce que dit Simon Humbert-Vierre?
Simon Humbert-Vierre, il dit évidemment des choses tout à fait justes, mais en fait, il avance. C'est mon prochain roman, ça.
Ah, d'accord, vous avez un petit peu d'avance.
Parce que mon père est un des tout premiers à avoir eu un restaurant à Balbala, et donc j'ai connu enfant aussi les Balbala et les barrages. Ça, je parle 70, 71. Là, on parle déjà 73 par là. Donc, je reviendrai. Ça, c'est dans le volume 2, on va dire.
Bon, mais il y a déjà ce quartier blanc qui est interdit aux Noirs, sauf si on a un laissez-passer. Ça, vous en parlez aussi.
Là, ça, c'est Djiboutiville. Donc, oui. Ça, Simon.
Ça, c'est assez classique, finalement, à l'époque.
C'est une question
de
priorité.
C'est les riches.
La seule chose qui a changé aujourd'hui, il y a des Noirs riches, quoi.
Voilà, mais justement, c'est ça. En fait, c'est plus une ségrégation.
Il y en avait très peu.
En fait, c'est plus une ségrégation sociale qu'une ségrégation d'origine à l'époque.
Mais la ville, elle est en trois mouvements, en fait, on peut dire. Il y a le plateau, la ville intermédiaire, qu'on pourrait dire arabe, si on veut, au niveau du Place Rimbaud, et après la ville basse, autochtone.
Donc justement, il y a la ségrégation, on va dire, par l'argent, et puis est-ce qu'il y a aussi une ségrégation très claire, aussi, Simon Humbert-Vierre, entre les nomades et les sédentaires, puisqu'on évoquait la grand-mère, hein, tout à l'heure, qui était justement dépositaire de cette tradition nomade.
C'est difficile d'avoir une réponse parce qu'on a très peu d'éléments sur la population djiboutienne au 19e siècle. C'est-à-dire que c'est difficile.
Mais là, on est au 20e siècle.
Oui, la question, c'est
oui, ça s'est construit.
90% des Djiboutiens viennent d'ailleurs. Il y avait certainement très peu de monde à Djibouti quand, à moment de l'installation coloniale. Donc après, on a une arrivée massive de gens. On a des gens effectivement qui habitaient sur le territoire, que je qualifierais plutôt de pasteurs transhumants que de nomades, parce que nomades, ça évoque cette idée des grands déserts. Je sais pas, on voit les Touaregs, ces choses-là. On n'est pas pas sur des trajets de cet ordre-là. On est sur effectivement des pasteurs transhumants qui, en fonction des saisons et des pluies principalement, amènent leurs troupeaux dans les pâturages selon des règles extrêmement codifiées, organisées, de propriété, de droits de passage, etc. Et donc là-dessus, il y a toute une mythologie. Voilà. Après, à Djibouti, je pense qu'il y a effectivement une construction de l'image du nomade qui participe de la construction de l'identité, mais dont il est très difficile d'aller voir sur quels éléments concrets ça peut bien s'appuyer, parce que voilà, les habitants sont extrêmement divers. En fait.
Vous utilisez le mot nomade, Abdourahmane Ouaberi, vous utilisez aussi le terme de brousse. Et c'est notamment le cas lorsque vous évoquez l'Adane, qui est la bonne de la famille, qui va déclencher les premiers émois d'adolescent de votre personnage. Adane, alors c'est assez intéressant aussi de voir la place que l'Adane a au sein de cette famille, parce qu'elle est finalement très respectée, mais en même temps on sent quand même que au sein de cette famille, ben il y a un petit peu de mépris pour elle.
Oui, là encore, vous avez raison, il y a une construction des classes. D'ailleurs, la petite fille des brousses, et vous voyez, on a tous ça.
Le mot brousse, d'ailleurs, est un petit peu péjoratif.
Bien sûr. C'est-à-dire les nouveaux urbains, puisqu'ils étaient pas nés urbains, à part la communauté yéménite, tout le monde vient à peu près de la brousse d'une certaine manière. Donc, c'est la dernière génération, si j'ose dire, de cousins de la brousse qui, à l'occasion d'une sécheresse, reviennent en ville et donc deviennent des citadins. Et donc on a toujours un cousin qui vient de la brousse et dont on se moque au départ, évidemment.
C'est le plouc, comme on pourrait dire en France. Oui.
Alors, je serais d'accord avec... Mais vous voyez, pasteur transhumant, c'est très lent pour écrire.
Oui, je
c'est juste voilà, une histoire de termes. Alors que le nomade, c'est très, très poétique, n'est-ce pas?
Banco sinanda gumayo usitani hinenne ra'atin foyai kewal albini yulbir sunu onuni ya banco sinanda gumayo usitani hinenne ra'atin foyai.
Sinam Netmakal est le musicien djiboutien Hussein Haïlé dans VMDN sur RFI avec l'écrivain Abdourahmane Ouaberi et l'historien Simon Humbert Vierre. Alors vous me disiez à l'instant, Abdourahmane Ouaberi, que c'était en langue afar, hein, cette chanson. L'occasion de rebondir sur un sigle que vous avez utilisé tout à l'heure, TFAI, Territoire français des Afars et des Issa. C'est l'ancien nom de Djibouti.
C'est ça, entre 67 et 1967 et 1977. En 77, la côte française des Somalis est devenue les territoires français des Afar et des Issa. C'est l'administration française qui a choisi cette nouvelle appellation pour casser un peu le symbole de la Somalie et de ce qu'on appelait à l'époque l'irrédentisme somali. En gros, la demande de décolonisation.
Alors justement, décryptez-nous un petit peu tout ça, Simon Aberbier. Les Afar, les Issa, les Somalis, les Djiboutiens.
Oula, là, nous rentrons. Ça va peut-être être un petit peu long. Disons qu'il y a à Djibouti, effectivement, il y avait deux groupes linguistiques, on va dire, qui habitaient sur le territoire. Enfin, on trouvait des locuteurs principalement de ces deux groupes-là. Donc, des locuteurs du Somali, des locuteurs de l'Afar, dans des positions non stabilisées du tout, dont il est difficile de savoir, même au début du 19e siècle, quelle était la situation, parce qu'on trouvait des locuteurs somali sous la domination Afar, et le contraire aussi. Oui. Enfin, je veux dire, tout ça. Et ça, c'était pas nécessairement des marqueurs politiques.
D'accord.
Par ailleurs aussi, on trouvait à Djibouti, qui était déjà un lieu de passage entre, en particulier, l'Arabie et l'Éthiopie, des Éthiopiens, enfin des Éthiopiens, des gens qui aujourd'hui sont Éthiopiens, des Yéménites, enfin des gens qui viennent en tout cas d'Arabie, etc., qu'on retrouve dans les récits, les premiers récits qu'on a des années 1840 à peu près. Et là, on voit des locuteurs de ces langues-là aussi, des gens qui viennent. Donc on est dans un milieu de circulation depuis au moins le 19e siècle, et sans doute avant, mais là on n'a plus de traces malheureusement.
Alors quand est-ce que les Français sont arrivés ?
1884.
Et comment s'est passée la colonisation du territoire djiboutien ?
Alors, elle s'est passée très très lentement, parce qu'en fait, le territoire djiboutien n'a été colonisé que très tard, dans les années 1930, en fait. Et réellement, enfin, 1928, ça commence, et c'est vraiment 1935 où quelques affrontements ont généré une petite guerre de conquête qui s'achève à la fin des années 40.
Il y a les Italiens qui sont pas très loin.
Ah, les Italiens, si, sont enfin, ils sont
en Éthiopie. Ils sont en Éthiopie, l'Érythrée.
Oui, mais en 1936 seulement, ils viennent en Éthiopie qu'en 36. En Somalie, les Italiens sont loin, il y a les Anglais au milieu, ils sont en Érythrée. Ils sont en Érythrée, mais il y a pas d'enjeu pour personne sur la frontière entre Djibouti et l'Érythrée. C'est réglé en 1891, si mes souvenirs sont bons, et ça n'a jamais rebougé.
Alors, Abdourahmane Ouaberi, vous évoquez les Italiens, d'ailleurs. Détour d'une phrase, c'est un de vos personnages qui dit « Français, Anglais et Italiens se sont partagés la terre de nos ancêtres ».
Oui, ben ça c'est la lecture somalie, hein. Vous savez, les Somalis, j'ai utilisé tout à l'heure le terme d'irrédentisme, ils avaient cette volonté de réunir les territoires habités par des Somalis, et d'ailleurs ça a été un échec flagrant, et il faudrait que ils apprennent, si j'ose dire, à être aussi minoritaires, c'est-à-dire que il y a des Somalis en Éthiopie, mais ils sont des nationalités éthiopiennes, il y a des Somalis au Kenya, mais ils sont kényans, il y a des Somalis, ce qu'on appelait des Somalis à Djibouti ou des Issa à Djibouti, ils vivent avec d'autres, vous voyez, donc la langue ne coïncide pas et la culture ne coïncide pas avec le territoire, et c'est un autre imaginaire qu'il faut développer. Mais il a raison, Simon Humbert Viel, parce que Djibouti est un lieu de circulation. Et il y a eu des gens somalis, Afar, éthiopiens de diverses régions, yéménites, tout ça fait des Djiboutiens. Il y a des Djiboutiens aujourd'hui qui ont certains même ont des parents grecs, etc. Donc ça fait partie aussi de l'expérience djiboutienne, et il ne faut pas la résumer aux Afar et aux Issa.
Alors l'indépendance, cette volonté d'indépendance, c'est assez étonnant aussi dans le livre d'Abdourahmane Ouaberi, parce que donc c'est un enfant, hein, encore une fois, qui vit cette époque-là. Et finalement, vous l'abordez de façon très 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 détournée. Par exemple, on apprend la mort de Nasser, donc le nationaliste égyptien, Gamal Abdel Nasser, il meurt, et ça fait beaucoup de peine au père de votre narrateur, à Papa Latige. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on se rend compte que le nationalisme essaime un petit peu sur la terre africaine.
Ah ben, vous en souvenez, j'imagine, Gamal Abdel Nasser était un héros pour, pas que pour les Djiboutiens, hein, c'était une figure de ce qu'on appelait à peu près à l'époque les tiers-mondismes. C'est donc, je sais pas, on peut trouver en Indonésie des gens qui étaient
très... La conférence de Bandung, ouais,
c'est ça,
et
voilà.
Les essuites.
Donc, mais ça, c'est aussi un souvenir personnel. Je me souviens qu'à la mort de Gamal Abdel Nasser, d'ailleurs, j'habite à Avenue Nasser, donc ça rapproche toujours à Djiboutiville, quartier 6, et j'ai vu beaucoup de gens pleuraient, et pas seulement dans la communauté dite arabe yéménite, hein, il y a beaucoup, c'était un héros national, comme aujourd'hui, je sais pas, pour beaucoup de gens, je sais pas, il était de J.J. Rowling en avant au Ghana, vous voyez, c'est ce genre de figure, c'était un héros.
L'indépendance de Djibouti, Simon Aberbier, elle s'est, il n'y a pas eu de guerre, mais elle s'est acquise dans la violence.
Elle s'est acquise dans la violence. C'est pour ça, c'est le barrage. Le barrage était le marqueur de la violence de Djibouti. Et ce qui est intéressant de voir, et ça nous ramène à votre première question sur les valeurs stratégiques de Djibouti, c'est qu'en fait, ceux qui soutenaient l'indépendance de Djibouti étaient les militaires. Parce que les militaires gardaient le barrage, qui leur posait beaucoup de problèmes parce qu'il n'existait pas, et donc comme il y a eu quand même quelques morts, même si pas autant que ce qu'on peut dire, mais enfin quand même il y a eu quelques morts sur le barrage, les morts étaient des assassinats d'un point de vue juridique. Et donc les militaires, bon, c'était une grosse contrainte pour eux, etc. Et le ministre de la Défense, a toujours pris position pour la suppression du barrage, Pierre Messmer à l'époque. Et c'est intéressant de voir que l'élément déclencheur de l'indépendance de Djibouti, en fait, bizarrement, c'est un article de Pierre Messmer de novembre 1975 qui dit il faut que Djibouti aille vers l'indépendance. Et Messmer, c'est un ancien premier ministre à cette époque-là, un ancien administrateur colonial, il a été gouverneur de Côte d'Ivoire, il était ministre de la Défense de Gaulle de 60 à 68 ou je sais plus quoi, enfin, pendant très longtemps. C'est vraiment quelqu'un qui est au cœur de, à la fois l'armée et la domination coloniale, et c'est lui qui lance le coup d'envoi de l'indépendance, en fait. Alors, bien évidemment, il y avait des manifestations, enfin, il y avait un mouvement indépendantiste à Djibouti, mais les leaders étaient quand même pas extrêmement tenants. C'est-à-dire que les leaders ont beaucoup changé. Ils étaient parfois indépendantistes et parfois pas indépendantistes.
En fait, on a l'impression que c'est la France qui a lâché Djibouti plus que Djibouti a arraché son indépendance.
C'est difficile de dire. Donc, en tout cas, il y avait une pression très forte à Djibouti qui rendait la situation intenable, qui était plus liée à la situation sociale qu'à la volonté d'indépendance, me semble-t-il. Mais je suis pas un spécialiste d'histoire politique.
Abdourahmane Ouaberi, l'indépendance en 77, vous l'avez vécu.
Oui, j'avais 12 ans.
C'est quoi? C'est un moment, on a une conscience politique quand même à 12 ans. C'est un moment d'espoir ou...
Non, c'est un moment de grande joie. On peut remonter à la décision de Pierre Messmer, mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est la même chose. En fait, il y a une pression tellement démographique et sociale que tenir le barrage, ça devient absurde, parce que les barrages, derrière les barrages, il y a les 90% du territoire. Donc, on peut pas extraire ces territoires qui étaient une colonie et les garder que la ville, voyez. Donc, au bout d'un moment, la logique, on va dire, coloniale d'administration du territoire, c'est mort elle-même la queue, et donc, c'est la pression a fait que les gens de l'intérieur rentraient dans la ville. Donc, à moins de créer une ville différente du reste du territoire et lâcher les territoires, mais en tout cas, la logique devient l'indépendance. Ça pouvait pas tenir longtemps.
Aujourd'hui, Abdourahmane Ouaberi, vous partagez votre vie entre l'Europe et les États-Unis. Vous retournez de temps en temps à Djibouti?
Jusqu'à présent, enfin, dire depuis 2007, je suis pas retourné et j'espère que ça va se décompter.
Oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le bienvenu chez vous aujourd'hui?
Non, parce qu'en 2013, il y avait un mouvement politique assez fort que j'ai accompagné alors que je me considère nullement comme un opposant. Mais j'avais donné... quelques aides à ces gens-là, aux gens qui s'opposaient. Donc, je suis considéré comme un affreux opposant, paraît-il, mais ça peut changer assez vite.
Une dernière question. On quitte aujourd'hui le pays, pas pour faire des études, comme vous et votre personnage, mais pour le fuir. Vous avez évoqué le drame des migrants il n'y a pas longtemps dans le monde d'Afrique, puisque vous écrivez pour eux. Vous avez consacré un article à la Sicile, puisque votre épouse a des origines siciliennes, un peu comme la Margherita du roman, d'ailleurs. Et au passage, vous expliquez... vous vous insurgez contre le fait que le mot migrant a remplacé le mot exilé et même le mot réfugié. Qu'est-ce qu'il nous apprend, ce choix du terme migrant, Abdourahmane Ouaberi?
Alors, le migrant, ça devient la feuille de vigne qui cache le reste, voyez. Parce qu'à une époque, on se souvient des exilés latino-américains, par exemple. Exilé, ça devient, il a des droits, voyez. Alors que migrant, c'est le low cost de l'exilé, si j'ose dire. Donc, j'ai remarqué, notamment dans la presse italienne, mais aussi dans la presse française, qu'il y a une floraison de l'utilisation, enfin, une augmentation exponentielle du mot migrant et à défaut, exilé n'est quasiment disparu du vocabulaire.
Merci beaucoup, Abdourahmane Ouaberi. Pourquoi tu danses quand tu marches? Votre roman est paru, je le rappelle, chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup également, Simon Imbervière, historien-chercheur à l'Institut des mondes africains.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Oui.
Avant de se quitter, un petit détour parisien, cette fois par le Panthéon, où reposent quelques-uns des grands hommes et femmes de l'histoire de France. Le monument accueille en ce moment une exposition consacrée à l'histoire des sourds, ou plutôt à l'histoire de la langue des signes. Plus de 460 millions de personnes à travers le monde sont sourdes, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et le Panthéon a donc décidé de leur rendre hommage à travers cette exposition didactique que notre reporter Fanny Blechner a visitée pour nous.
L'exposition a été conçue par Yann Quentin, docteur en histoire et lui-même sourd. Il nous explique en langue des signes son titre, l'histoire silencieuse des sourds. Sophie Granato lui sert d'interprète.
C'est une histoire qui est inconnue. Et dans les années 1900, c'est vrai que les sourds s'appelaient sourds, mais aussi s'appelaient les silencieux, se nommaient entre eux les silencieux parce qu'il n'y avait pas de voix, ils utilisaient seulement la langue des signes. Et c'est vrai que le mot sourd venait d'un corps médical, donc les sourds, eux, se disaient comme étant les silencieux.
Car il s'agit bien de l'histoire d'une langue et pas d'un handicap. Le déroulé est chronologique avec de grands panneaux explicatifs. Et l'on apprend par exemple que les premiers signes avec les mains seraient nés dans les monastères où le vœu de silence était respecté. On découvre aussi certaines personnalités importantes comme l'abbé de l'Épée au XVIIIe siècle.
Il a permis l'éducation gratuite. C'est ça qui est très très important. Et c'est pour cela qu'on lui rend hommage. Mais c'est vrai qu'au niveau des sourds et de la langue des signes, il n'a pas forcément permis son développement et son évolution parce qu'il n'utilisait pas la grammaire de la langue des signes en fait. Il voyait la langue des signes comme une aide pour le français, pour acquérir le français, mais pas forcément une langue comme étant une langue à part entière.
Auguste Bébian lui va permettre un enseignement bilingue, puis vient la méthode oraliste avec des enfants à qui l'on interdit de signer en public. Au centre de l'exposition, quatre vidéos à taille humaine représentent d'autres figures comme Madeleine Lemansois qui s'est battue pour que les sourds puissent se marier librement, ou encore Ferdinand Berthier qui a créé la première association sourde au monde. Quelques textes et peintures sont aussi présentés. Le visiteur comprend que se battre pour l'accès à la langue des signes, c'est se battre pour l'égalité.
Au sein de la communauté sourde, en fait, c'est de montrer que les personnes sourdes avaient une place au sein de la société. Un sourd grandit avec la langue des signes et en fait, on voit l'évolution qu'il a eue en termes de place dans la société de langue des signes quand elle a été acceptée, puis refusée, puis acceptée et aussi le lien qu'il y a entre l'acceptation de la personne.
La question du militantisme est primordiale.
Alors au départ, c'était forcément l'école gratuite, c'est l'éducation. Et ensuite, l'objectif du militantisme, c'était d'avoir accès à tous les échanges, accès à tout ce qui se passe dans la société et dire qu'une personne sourde est capable. Arrêter de dire que c'est impossible pour une personne sourde, en fait. Les personnes sourdes peuvent aussi apporter beaucoup de choses à la société. Et donc, les sourds veulent une autonomie. Ils veulent qu'on arrête de les aider à chaque fois, mais ils veulent vraiment un accès complet et une autonomie. En fait, on veut qu'on nous laisse choisir pour pouvoir ensuite évoluer.
Cette exposition est en soi un acte important, nous explique Philippe Bellaval, président du Centre des Monuments Nationaux.
Le point de départ, c'est que lorsque j'avais été invité par les pouvoirs publics à réfléchir sur le Panthéon, sur le sens du Panthéon, j'avais été alerté sur le fait que Braille, l'inventeur de l'écriture des aveugles, reposait au Panthéon, mais qu'aucune des personnalités qui, au cours de l'histoire, se sont engagées en faveur des sourds n'avait le même honneur. Voilà. Alors, cette exposition n'est pas une valeur d'hommage, mais elle est simplement destinée à rendre visible cette histoire et qui demeure aujourd'hui méconnue par le plus grand nombre de nos compatriotes.
L'exposition se termine avec un éclairage contemporain, notamment une grande carte des lieux dédiés à la culture sourde à Paris.
Reportage de Fanny Blechner, le journal dans un instant. N'oubliez pas que vous pourrez écouter l'émission sur le site internet de RFI et sur notre page Facebook où vous pouvez donc répondre à la question qui vous permettra peut-être, je le souhaite pour chacun d'entre vous, de gagner un exemplaire du livre d'Abdourahmane Waberi. On se retrouve demain avec Philippe Gauclair pour Québec, une BD de science-fiction parue chez Casterman, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.